chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons et nous terminons cette série concernant « Reviens vers celui qui t'a sauvé ». Reviens vers celui qui t'a sauvé. Nous avons l'étude numéro 4 et notre titre sera « Courons vers le but ». Courons vers le but final. Chers amis, s'il est vrai que les conséquences du péché sont coûteuses, il n'est pas moins vrai que Dieu est un Dieu qui nous relève. N'oublions jamais cela. Dieu est patient de voir le rétrograde rétabli, parce qu'il a été maintenant rétabli. Il est donc heureux de le voir se relever de tous ses échecs et de vivre une vie qui est maintenant remplie de l'Esprit Saint. Comment le chrétien peut-il y arriver? Eh oui, comment? Comment peut-il être sûr de ne pas refaire la même erreur? Premièrement, chers amis, et c'est important que vous notiez quelques citations bibliques, très important que vous puissiez les relire tranquillement chez vous. Premièrement, il convient d'abord de procéder à un nettoyage sérieux de votre appartement, de votre maison. Cela peut vouloir dire qu'il faudra peut-être brûler certains livres, certains magazines, se séparer d'objets associés à des habitudes néfastes, détruire tout ce qui pourrait exciter de mauvais désirs. Il peut y avoir des péchés de magie, de superstition, tout cela à confesser. Il peut aussi y avoir des objets s'y référant à tout cela que nous devons absolument brûler. Notez Galates chapitre 5, verset 20. Certains vêtements même, oh oui, peuvent nous rappeler des faits troublants. Le livre de Jude, à la fin du Nouveau Testament, dit que nous devons haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. Notez Jude, verset 23. S'attacher, par exemple, à des choses matérielles qui suscitent de mauvais désirs, ça c'est un signe d'un manque de sincérité dans la repentance, et cela tend à prouver que nous avons des illusions en notre capacité de résister à la tentation. Deuxièmement, la deuxième chose à faire pour rester en communion avec Dieu, c'est bien entendu de confesser immédiatement notre péché. Dès que le chrétien est conscient de la moindre faute dans sa vie, il devra l'apporter au Seigneur, l'appeler par son nom, et il devra la juger devant le Seigneur. Notez 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Cher ami, pour agir ainsi, il doit avoir un esprit brisé. Oui, nous devons vraiment avoir, et ça se comprend, un esprit sincèrement brisé. Et il faut être constamment prêt à prendre parti avec Dieu contre le péché et contre le moi. Troisièmement, ensuite, il doit y avoir un abandon total de notre propre volonté à celle du Seigneur. Notez Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Une crise spirituelle peut avoir lieu au départ et elle se poursuit comme une habitude de chaque instant. Et lorsque on est tendu vers la volonté de Dieu, alors la force et la sécurité nous sont données quoi qu'il arrive. Nous entrons donc en zone dangereuse, surtout lorsque nous marchons dans notre propre volonté. Quatrièmement, chose primordiale, le croyant doit lire la sainte parole de Dieu chaque jour et obéir à cette parole. Notez le psaume 119, versets 9 et 11. De cette façon-là, nous sommes avertis des pièges conduits dans le droit chemin, et nous serons fortifiés lorsque surviennent les tentations. Il ne suffit donc pas de lire ou d'écouter la sainte parole de Dieu, mais nous devons être prêts à faire tout ce que le Seigneur nous dit. Notez Jacques, chapitre 1, verset 22. Cette attitude de complète soumission aux Saintes Écritures est absolument indispensable. Et notez Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Cinquièmement, la prière doit être une force vivante et vitale dans la vie du croyant. Notez Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. En fait, la prière est une conversation avec Dieu. C'est le faire pénétrer dans tous les domaines de notre vie. C'est de chercher sa direction et de reconnaître sa seigneurie. La prière devrait comporter ce cri incessant qui dit au verset 13 de Saint Matthieu, chapitre 6, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Je répète, Saint Matthieu, chapitre 6, verset 13. Sixièmement, évidemment, il est clair que nous devrions assister, si possible régulièrement, aux réunions de l'Église locale, et de contribuer grandement à la sanctification du chrétien par ce exercice indispensable, au moins le dimanche matin, s'il vous plaît. Notez Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous ne devons pas avoir peur de nous unir à d'autres croyants, car cela est une source d'édification et de force. Notez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Évidemment, il est nécessaire de faire part ou de prendre part régulièrement au repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Cène. Ça, c'est un acte qui a le pouvoir de nous détourner du péché. Si c'est fait sincèrement, croyez-moi que c'est vraiment une puissance. Notez pour cela 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, jusqu'au verset 34. Notez jusqu'au verset 34. Le croyant devrait toujours être actif pour le Seigneur. Notez Éphésiens, chapitre 5, verset 15 et 16. Car, voyez-vous, la tentation est plus forte dans les moments d'oisiveté, lorsque l'esprit est totalement relâché et que le corps est saturé de sommeil, qu'on n'est plus du tout fatigué. Ainsi, sommes-nous en sécurité lorsque nous rachetons le temps en travaillant pour le Seigneur et que nous faisons tout ce que nos mains peuvent trouver à faire. Notez Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Chers amis, il est également important que le croyant soit placé dans une situation telle qu'il ait à faire confiance totale au Seigneur. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Mais cela exige, bien entendu, cela exige de notre part une action délibérée. La chose naturelle, c'est de vivre par la vue, d'amasser des trésors sur la terre, de se constituer des réserves, de s'appuyer sur des soutiens et des supports financiers, avoir quelques lingots de côté. Or, voyez-vous, il n'y a pas de mal, et ce n'est pas un péché, d'avoir quelques sous de côté au cas où. Mais essayons un peu de marcher par la foi. Et marcher par la foi, cela signifie que nous nous contentons de la nourriture de la journée, du vêtement que nous portons et d'un endroit où habiter. Ça n'a pas besoin d'être une hacienda ou un château. Notez 1 Timothée chapitre 6 verset 8. Que nous investissons absolument tout ce que nous pouvons dans l'œuvre du Seigneur et que nous lui fassions confiance en ce qui concerne notre avenir. Enfin, le chrétien qui veut éviter de rétrograder devra bien entendu marcher humblement avec son Dieu, et cela jusqu'au terme de ses années, jusqu'à la vieillesse. C'est mon cas actuellement. Ésaïe, chapitre 38, verset 15. Il n'y a pas de solution miracle pour connaître une vie chrétienne victorieuse. C'est une marche de chaque instant dans l'humble dépendance de Jésus-Christ. Notez le Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 10. Bien sûr, toutes ces citations bibliques, vous pouvez penser que tout ça, c'est du charabia. Mais croyez-moi, si vous pouvez les relire tranquillement, en priant, eh bien vous trouverez une grande satisfaction. Vraiment, je peux vous le dire. Il faut en plus, à tout prix, éviter le recul ou le déclin spirituel. Ça, il faut absolument éviter. Et c'est à nous de faire cet effort. Pourquoi penser qu'il n'y a qu'à dire au Seigneur, donne-moi, 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 qu'est demandé sans arrêt, mais nous devons aussi faire quelque chose. C'est la moindre des choses. Qui sommes-nous pour penser que Dieu nous doit tout? Il ne nous doit rien du tout. Donc, soyons et restons un peu humbles. Je voudrais que vous notiez le psaume 32. Et si vous avez une occasion, un moment, de lire le psaume 32 en entier. Il est dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, qu'il ne soit pas tordu, ni biaisé, ni menteur. » Psaume 32. Et notez aussi Osée, chapitre 14, verset 1. Israël, reviens donc à l'Éternel ton Dieu. C'est ce qui est dit dans Osée, chapitre 14. Israël, reviens, oui, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Malheureusement, il est facile de perdre la communion intime avec le Seigneur, avec notre Père céleste. Cette perte de contact, cette perte de contact, n'est pas toujours délibérée et volontaire, bien entendu. Ce serait affreux si on faisait exprès. Néanmoins, les conséquences restent tout de même tragiques. Si un traitement vigoureux n'est pas appliqué, après avoir goûté à l'amour de Jésus-Christ et de sa sainte parole vivante, on sait, lors d'une difficulté, abandonné au découragement, sans même réagir contre le courant qui nous emporte. Lors d'une retraite, lors d'un temps, d'une réunion, tout avait pourtant changé. Vous aviez réalisé la paix de Dieu. Vous avez goûté que le Seigneur est vraiment bon et vous aviez commencé à lire régulièrement la sainte parole de Dieu, cette nourriture de joie. Et voilà, après quelques jours, quelques mois, ou même quelques années, voilà qu'on s'est refroidi. Bien sûr, vous n'avez pas osé, ni vous avez cru pouvoir recommencer une véritable vie avec Jésus-Christ. Vous êtes très triste, vous êtes souvent accablé et même angoissé. Je dis cela au cas où on a glissé sur une pelure de banane, vous l'avez bien compris. Pourtant, cela est indispensable, car vous étiez sincère devant Dieu lors de votre décision de vouloir le suivre. Là, tout semblait changer. Et maintenant, voilà où vous en êtes. Peut-être, on peut même parfois tomber plus bas qu'auparavant. Ça peut arriver dans certains cas. Vous pensez, que puis-je faire maintenant? Le Seigneur voudra-t-il vraiment encore de moi, misérable créature que je suis? Me recevra-t-il encore? Je l'ai tellement méprisé. Ne suis-je pas de ceux que l'on dit incurables? Tu es un cas incurable. Tu es foutu. Tu n'as plus que aller te pendre ou de t'envoyer une balle dans la tête. Vraiment, ça, c'est un fardeau très, très, très lourd pour porter. Mais maintenant, il faut parler, il faut pas avoir peur de parler à Dieu, puisque c'est notre Papa Céleste. Il faut pas avoir peur de venir au Seigneur et plaider une cause qui n'est pas perdue, non, car il aura encore compassion de vous. Voyez-vous, celui qui refuse de dialoguer avec Dieu et qui s'enferme dans sa tour de regret, qui s'enferme dans le donjon de ses sensations, eh bien, il demeurera évidemment très tiède. Il continuera d'être chargé de son péché. Il traînera avec lui ses plaintes et ses inquiétudes, un peu comme une carie dans une dent. Eh bien, ça, tout ça, c'est évidemment un état très dépressif. C'est la névrose de l'orgueilleux qui ne veut plus croire à la bonté de Dieu notre Père et qui se tourne vers un autre Dieu, lui-même, pour se contempler dans son insuffisance, telle que les religions orientales, le yoga et tout ce qui est de cet ordre-là. Vous ouvrez donc la bouche pour vous plaindre. Alors apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, s'il vous plaît. Dites-lui au Papa de pardonner toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Notez Osée, chapitre 14, versets 1 et 2. Il faut donc fuir cette tendance à s'abandonner au cours de ses propres pensées. Aussi ne dites surtout pas, comme Jérémie, « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Dieu vous a convaincu de péché. Et le malin ?» Le malin, rappelez-vous, le rusé, il s'applique à vous faire écouter sa voix trompeuse. Il dit, « Oh là là, tu vois bien que tu es beaucoup trop mauvais. Ne sois donc pas hypocrite. Tu recommenceras encore et encore. Ce n'était qu'une affaire de sentiment la première fois. Tu as fait semblant de vouloir revenir ou de retourner vers ton Dieu. Mais ce n'était pas vraiment très sincère. Voyez-vous, les arguments de Satan sont extrêmement subtils. Il faut quand même le croire, puisqu'il a pu séduire et tourner vraiment la foi en bourrique de Ève. Il les a tordus, menti avec toutes ses ruses. Oui, Satan empoisonne comme la morsure du serpent. Alors répondez-lui, comme Jésus-Christ l'a fait. Oui, Jésus-Christ l'a fait lui-même. Par la parole de Dieu, il a dit, et je voudrais que vous notiez, Saint Matthieu chapitre 4, Saint Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Lisez cela, s'il vous plaît, tranquillement. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11. Ouvre notre oreille à la voix du bon berger qui nous invite à venir à lui pour trouver du repos. L'Esprit Saint nous sonde dans le but, non pas de nous décourager, mais de nous guérir de notre incrédulité qui nous voile l'amour de Jésus-Christ. Qui nous voile l'amour par des ruses mensongères, tordues, biaisées. Chers amis, l'Esprit de Jésus me pousse à confesser mon péché au Seigneur. Et cela avec des paroles de repentance sincère. Voici la première étape. C'est donc de reconnaître son état et de confesser ses fautes. C'est la moindre des choses. Soyons honnêtes. C'est un acte de foi, car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Je t'ai fait connaître mon péché, est-il dit dans le psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai, oui, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, la décision est maintenant vraiment prise. Je vais avouer tout. Que cela est bienfaisant. Rappelez-vous, comme le petit prophète Jonas. J'aime beaucoup son histoire. Tu quittes les ténèbres de ta prison pour te baigner dans la lumière. Jonas, chapitre 1, notez le verset 1 jusqu'au verset 11. Il faut donc tout lui dire au Seigneur, les péchés commis un à un devront être confessés de la même façon. C'est une opération chirurgicale, eh oui, et qui demande du sérieux. Vient ensuite le cri de joie, la certitude du pardon, car il a effacé, Jésus a pardonné, il a oublié, il a même jeté au fond de la mer, je l'ai déjà dit, tous mes péchés au fond de la mer. Alléluia. Notez Michée, chapitre 7, versets 18 à 20. La tentation de se confier à ses sensations propres et à ses sentiments propres sera combattue en se cramponnant aux promesses de Jésus-Christ. Oui, je croirai sa sainte parole qui est la vérité. Notez Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Tu as couvert tous ses péchés. Oui, tu as couvert tous mes péchés. Psaume 85, verset 3. Oui, bienheureux est celui dont le péché est couvert, selon la version Darby. Psaume, chapitre 32, verset 1. L'efficacité absolue de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, c'est notre entier salut. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notez Romains, chapitre 8, verset 1. Encore une fois, pardonnez-moi de vous donner toutes ces citations bibliques, mais vous ne le regretterez pas, je vous le promets, de les relire tranquillement. Vous ne regretterez jamais cela. Jésus-Christ s'est offert comme la victime expiatoire, et tout cela à notre place, à ma place. Ayons par une seule offrande portée en son corps toutes nos iniquités, tout le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5. En lui, en Jésus-Christ, je suis donc non seulement pardonné, mais je suis aussi purifié. Je suis délivré de la loi du péché et de la mort, tout simplement par la voie de l'Esprit Saint de la vie. C'est donc là la vie victorieuse de Jésus-Christ en moi. Christ a été crucifié pour moi et j'ai été crucifié avec lui, avec Jésus. Par la foi dans cette œuvre finie et absolument parfaite, j'ai maintenant la victoire. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'ainsi, tout homme, toute femme sincère te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Chers amis, pour terminer notre étude de notre série, cette perte de communion avec le Maître semble donc avoir commencé par une fuite dans la vie de prière. Dorénavant, prenez le temps convenable pour la lecture de la Sainte Bible, pour la prière et pour les rencontres fraternelles. Veillez et priez chaque jour afin d'être trouvé fidèle au poste, accomplissant les œuvres de justice qu'il nous a préparées à l'avance, car Jésus revient bientôt pour juger ce monde. Oui, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Amen. Et chers amis, je voudrais, avant qu'on prie ensemble, vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Reposez-vous. Il ne faut jamais se forcer exagérément jusqu'au bout de vos forces au travail. Alors reposez-vous jusqu'à ce que la vie éternelle, vous pénètre de part en part et vous pousse à l'action. Alors là, vous pourrez travailler, oui, et vous travaillerez dans la joie. Le travail accompli dans le surmenage exagéré ne rend pas vraiment. Alors, il n'est pas faux, il n'est pas interdit de se reposer. Je ne dis pas de toujours continuer à dire pendant des semaines et des semaines, je voudrais toujours dormir, je voudrais toujours me reposer, je voudrais toujours aller en vacances, je voudrais être au soleil, etc. Non, vous l'avez bien compris, se reposer un moment, se détendre. Souvenez-vous que Jésus est tout de même votre médecin. Il est celui qui guérit le mental, mais aussi le physique. Alors venez à lui pour être guéri et pour trouver le repos et la paix. Vous avez besoin de Jésus. Recherchez donc le grand air, son soleil, son air pur, sa présence et son enseignement. Quand vous les trouvez, vous êtes en vacances, et cela où que vous soyez. Le soleil réjouit le cœur de l'homme, il est le rire de la nature. Les remèdes du Seigneur sont le soleil et l'air, c'est la confiance et la foi. La confiance est comme du soleil pour l'âme. Elle enveloppe l'être entier d'Esprit Saint. Et par la foi, l'âme respire dans l'Esprit de Dieu et s'en imprègne. L'Esprit, l'âme et le corps ont donc un égal besoin d'être régénérés. Accueillez donc avec joie le traitement que Jésus vous propose. Approchez-vous, approchez tout à fait. La nature devient souvent son infirmière, et cela pour les âmes qui sont blessées et pour les corps qui sont fatigués. Acceptez donc ces services. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu es l'Éternel, sans commencement de jour et sans fin de vie. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes toujours. Tu es toujours le même. Nous ne pouvons comprendre combien cette pensée est redoutable et en même temps consolante pour nous. Notre existence sur cette terre est d'une si courte durée, et j'en sais quelque chose, si précaire, si fragile, qu'à chaque instant nous pouvons l'avoir touché à son terme. Pourrions-nous donc compter les jours qui s'écoulent sans en ressentir un douloureux effroi, puisque chaque heure nous fait approcher plus près de la tombe? Mais tu es l'Éternel, et tu nous as dit dans ta sainte parole que les choses invisibles pour nous maintenant sont éternelles aussi. S'il nous faut donc tout quitter ici-bas lorsque tu retires de nous ton souffle, eh bien l'éternité s'ouvre pour nous, et là il n'y aura plus de fin de jour ni de vie. Il est donc de la plus haute importance de maintenir notre salut intact jusqu'à la fin. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre quelques chants d'un très, très lointain passé, environ 1954. J'étais un tout jeune homme quand j'avais enregistré ça. Évidemment, on n'avait pas les mêmes appareils que de nos jours. Et la clarté des paroles n'est plus la même. Mais le Saint-Esprit y demeure tout de même. Et rappelez-vous toujours, et n'oubliez jamais, Dieu, votre Papa Céleste, et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix, qui a versé son sang précieux pour vous sauver et pour vous racheter, il vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse et je vous dis, oui, je vous aime avec tout mon amour, et soyez bénis. À demain matin pour une nouvelle série d'études. Et maintenant, essayons si ça fonctionne. Many years ago, in a time of woe, to the Savior a promise you gave. If he just would show you the way to go, you'd receive him, your soul to save. Will you keep that vow to the Savior now? The old promise that was broken somehow. So before him bow and his will allow. Will you keep that vow?
In a time of pain, when all hope seemed vain, you remember that promise to God. With your life sustained and your health regained, you would serve Him at home or abroad. Will you keep that vow to the Savior now? The old promise that was broken somehow. So before Him bow and His will allow. Will you keep, will you keep that?
We sing a little.
The promise of the Lord is sure that He is coming soon. There are signs on earth around us, in the skies and in the moon. Lift up your heads, ye saints of God, the battle is almost won. The Lord is on His way.
Thank you.
Oh, how good to know that God in heaven watches o'er his children from above. They are objects of his tender mercy. Safely they are kept within his love. In this old trouble, protect his own.